l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui Philippe qui vous reçoit pour ces échos de la solidarité. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux étudiantes agronomes de Montpellier qui ont réalisé un film dont on va parler et qui passera demain à l'espace Martin Luther King. On vous le rappellera en fin d'émission, demain à midi, de midi à 14h, à l'occasion d'un café actualité de la Maison du Tiers-Monde et du Centre de Documentation Tiers-Monde. Je reçois donc aujourd'hui Lucie Aubou. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Et Gabrielle Bichat. Bonjour Gabrielle.
Bonjour.
Qui sont deux des quatre réalisatrices de ce film qui vont donc nous en parler puisqu'elles sont allées sur le terrain, l'une en Côte d'Ivoire, l'autre au Maroc, pour faire des interviews dans ce film, pour ce film, Partir à l'aventure, qui consiste en des récits de parcours migratoires en contexte agricole. Alors, avant de parler directement du film, Gabrielle, Lucie, je vous propose peut-être de nous décrire un peu le contexte qui vous a amené. Vous êtes étudiante en agronomie tropicale, l'une et l'autre, je crois, et à Supagro, Montpellier. Et vous êtes engagée vous-même dans une association, Ingénieurs sans frontières. Vous pouvez nous dire un peu comment a germé cette idée de réaliser un documentaire de cette nature?
Bonjour, merci beaucoup pour cette question.
C'est Gabrielle qui nous répond.
Alors, le film, on l'a réalisé pendant notre année de césure, entre la deuxième et troisième année d'ingénieur. Et l'idée du film, elle nous est venue en deuxième année, où on réfléchissait qu'est-ce qu'on pouvait faire à propos de l'immigration, puisque c'est un thème qui nous touchait beaucoup. Ben, par les médias, on en entendait beaucoup parler, et puis on était aussi au cœur de cette thématique via les associations auxquelles on était impliqués, notamment grâce à Ingénieurs sans frontières. Donc c'est une association qui a un pôle national à Paris, mais qui a aussi des pôles dans chaque école d'ingénieurs, dont notre école d'agriculture à l'Institut Agro à Montpellier.
Et vous êtes nombreux à Supagro, par exemple, à participer à cet engagement associatif ou...
Alors, dans le bureau, on est une petite dizaine, et sinon, ça peut aller à une vingtaine, trentaine d'adhérents. D'accord. En fonction des années.
Et vous avez d'autres... Enfin, là, on va parler d'un film. C'est assez original d'aller réaliser un documentaire de cette nature. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'ISF auxquels Supagro participe ou...
Alors, c'est très varié. Il y a des projections débats. Il y a beaucoup de projets qui sont tournés avec des aspects sociaux. Par exemple, des distributions alimentaires, des collectes d'habits qui vont être distribuées après pour des maraudes. On peut aller aussi distribuer des repas à l'hébergement Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on s'inscrit sur un drive. Enfin, c'est très divers. Et ça dépend aussi de la volonté de chaque étudiant à mettre en place des projets.
D'accord. Alors, je me tourne vers Lucie. Comment a germé dans votre groupe l'idée de faire un film sur ce thème?
Oui, donc par rapport au film sur ce thème, donc nous, le travail, il portait sur l'agriculture et les migrations. Et donc, dans nos études, on parle beaucoup du fonctionnement des exploitations agricoles, des aspects environnementaux, des aspects économiques. Par contre, les aspects sociaux et notamment par rapport à la main-d'œuvre sont parfois peu abordés. Et donc nous, c'est des problématiques sur lesquelles on souhaitait travailler. On se posait beaucoup de questions sur le type de personnes qui travaillaient dans nos exploitations en France, mais aussi sur pourquoi les personnes partaient d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb et quelles étaient les conditions de vie et les conditions de travail dans l'agriculture dans ces pays-là. Et donc, on avait envie de faire le lien entre le parcours de migration et le parcours de vie de personnes et le travail dans l'agriculture et comment elles avaient rencontré l'agriculture sur leur parcours, que ce soit à la base sur leur départ ou pendant leur trajet et souvent à l'arrivée parce qu'il y a de la recherche d'emploi et il y a besoin économique.
D'accord. Alors, si je reviens un peu à des aspects logistiques... Vous avez eu des supports financiers pour réaliser ce documentaire. Il y a eu quand même des voyages, des séjours et autres. C'est ISF qui a pu vous soutenir ou...
Alors oui, on a eu plusieurs types de financement. Donc le projet, il a germé petit à petit. Au début, c'était quand même assez vague. On avait cette thématique, mais la migration, c'est compliqué. Il y a beaucoup de flux. Et donc, on devait se concentrer sur certains types de migration. Donc, on a été accompagné par des sociologues et des anthropologues de notre école. Et petit à petit, on a créé un dossier et on a répondu à des appels à projets. Et donc, on a été financé par Ingénieurs sans frontières pour une grosse partie, notamment par un appel à projet qui s'appelle le FAICS et qui permet de financer des projets d'étudiants chaque année. Donc, tout le monde peut présenter son projet. Et ensuite, on a été financé par d'autres types de financement étudiant, donc une association qui s'appelle Engagés et Déterminés. Également une association qui travaille sur le commerce équitable, donc Génération Équitable, le réseau formation agricole et rurale de Montpellier Supagro, et également la chaire UNESCO Alimentation du Monde.
Oui, donc vous avez réussi à réunir quand même, j'allais dire, plusieurs sponsors, c'est bien de votre part. Je reviens un peu vers Gabriel. Donc, si bien compris, vous êtes préparé à ces enquêtes avec des spécialistes et tout ça, et ça me paraît une très très bonne chose. Est-ce que sur le plan, j'allais dire image, sur le plan cinéma aussi, vous avez été formé, appuyé, conseillé?
Alors justement, on a pris conseil auprès de l'association On the Green Road. C'est une association de voyages engagés, donc qui soutient beaucoup d'étudiants qui veulent faire des projets solidaires. Parce qu'on est des étudiants en agronomie et pas du tout dans le cinéma. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert vraiment sur le terrain, sur les cadrages, la prise de son. Donc l'association On the Green Road nous a beaucoup conseillé, notamment sur le matériel. On a pu aussi faire une formation avec eux sur l'écriture du script. Parce que quand on est parti en exploration, on ne connaissait pas du tout la direction qu'allait prendre le film, puisque ça s'est construit petit à petit avec les personnes qu'on a interviewées. Donc, finalement, on a été conseillé donc par nos professeurs d'un point de vue questionnaire, mais d'un point de vue technique, on a vraiment appris sur le terrain avec des conseils matériels en amont.
Oui, j'imagine. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez formé deux binômes, un binôme par pays. Combien de temps vous êtes restés respectivement au Maroc et en Côte d'Ivoire ?
Donc, au Maroc, on est resté 3 mois.
Donc, Lucie, qui était au Maroc.
Alors, moi, j'étais en Côte d'Ivoire.
Ah oui, en Côte d'Ivoire, pardon. Gabriel était au Maroc, oui. Si, en Côte d'Ivoire.
Et du coup, donc, au Maroc, on est resté 3 mois, mais à la base, c'était 5 mois. Donc, il y a eu des problèmes par rapport au coronavirus. Mais en Côte d'Ivoire, on est resté 5 mois. Mmh. Et ensuite, on a fait une partie en France où là, on est resté 4 mois à aller voir diverses.
Et alors, sur le terrain, vous êtes consacré essentiellement à un interlocuteur, une région, un village, je ne sais pas, ou est-ce que vous avez plus ou moins navigué en Côte d'Ivoire en ce qui vous concerne?
Alors, on a plutôt navigué entre différents villages. Donc, avant de partir, on savait qu'on pouvait aller dans 3 villages différents. Après, sur place, il s'est avéré qu'on a aussi fait des rencontres qui nous ont permis d'aller voir différentes zones. Et donc, on a été d'abord dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, vers Gagnoa. Ensuite, on est monté vers le nord-ouest et après plutôt vers le sud-est. Et donc, c'était vraiment intéressant parce que la Côte d'Ivoire, il y a plutôt 2 zones, et notamment une zone au sud qui est plus une zone cacaoyère. Et au nord, de savane arborée.
J'ai vécu, alors je peux en parler.
Vous le savez bien. Et donc, dans chaque village, on était accueillis par une famille. On vivait avec les familles, on travaillait avec elles, donc on partait au champ. Et après, on naviguait dans le village au fur et à mesure des rencontres. Et donc, l'idée, c'était d'aller travailler avec différentes familles du village et notamment avec différents jeunes qui avaient soit le projet de partir de Côte d'Ivoire ou à Abidjan, soit qui étaient déjà partis en migration, mais qui étaient revenus en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'avaient pas réussi à aller plus loin.
Dans le film, donc, vous présentez différentes situations en zone cacaoyère, en zone de savane, etc., d'agriculteurs liés à ces problèmes migratoires.
Alors, du coup, dans le film, il a fallu faire des choix parce qu'on a vu beaucoup de personnes différentes, beaucoup de situations différentes. Et nous, on a voulu se concentrer vraiment sur le parcours de vie de personnes, donc sur des choses assez subjectives et personnelles. Donc finalement, on a choisi, pour la Côte d'Ivoire, de présenter plutôt un personnage et avec des personnes qui gravitent autour, qui parlent plutôt de l'aspect cacaoyer et de toute la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire.
D'accord. Donc, je comprends bien que vous aviez, au niveau de vos entretiens, plus de matière qu'il ne pouvait en rentrer dans le film et que vous avez dû faire des choix, sélectionner, voilà. Je comprends très, très bien. Donc, je pense qu'on parlera du Maroc avec Gabriel juste après la pause. Une première pause musicale que vous allez nous présenter, s'il vous plaît.
Et ben, ça va faire très bien le lien avec le Maroc, puisque la musique elle a été composée donc, par Gabriele Galli et Anton Nachingi. Et Gabriele Galli, c'est quelqu'un qu'on a rencontré au Maroc et qui a fait 3 semaines avec nous. Et donc cette musique représente une des ambiances qu'il a pu s'inspirer au Maroc.
Place à la musique, merci. Après cette musique qui nous vient du Maroc, nous sommes toujours en entretien avec Lucie Aubou et Gabrielle Bichat, qui sont deux étudiantes en agronomie à Montpellier Supagro et qui ont réalisé un film, Partir à l'aventure, qui sera présenté demain mardi, à l'espace Martin Luther King. Il sera présenté par la Maison du Tiers-Monde et le Centre de documentation Tiers-Monde entre midi et 2h. Donc ça permettra de visionner ce film, d'en discuter, et également de prendre un pot ensemble à l'issue du débat. Voilà, donc nous étions en train de parler de plutôt l'organisation de ce film sur les thèmes que vous avez choisis, qui sont les thèmes des parcours migratoires dans un contexte agricole. Et Lucie nous a expliqué comment ça s'est passé plus ou moins sur le terrain en Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant demander à Gabriel comment le binôme a travaillé au Maroc. Est-ce que vous aviez des partenaires sur place? Comment vous vous êtes organisé pour réaliser ces enregistrements et ces images?
Alors ça s'est vraiment construit petit à petit, et par rapport à la Côte d'Ivoire, on a peut-être un peu moins vadrouillé vu qu'on était là-bas que 3 mois. On est arrivé...
3 semaines ou 3 mois?
3 mois, 3 mois.
3 mois, oui. Ah, j'avais mal compris. 3 mois, oui.
Oui.
Ah oui, c'est un temps considérable pour faire de l'image, oui.
Donc au début, on savait qu'on voulait arriver à Casablanca, puisque c'est là-bas qu'il y a l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pardon. C'est une administration française qui crée les contrats de personnes marocaines qui viennent travailler en France. Donc c'est des contrats qui durent entre 4 et 6 mois. Donc ça nous intéressait beaucoup d'en apprendre plus sur ces contrats agricoles et qui créent finalement de la migration entre la France et le Maroc. Donc ça a été notre première étape donc au Maroc. Et puis après, on s'est vite dirigé vers le sud du Maroc, dans la région du Souss-Massa, puisqu'on a eu des contacts via une association qui s'appelle Migration et Développement, qui a son bureau à Agadir, et aussi via du bouche à oreille avec des agriculteurs. Et donc là-bas, on a vécu donc avec l'association, mais aussi avec des personnes qui travaillent dans cette grande plaine agricole qu'est le Souss-Massa. Et on a pu aller travailler au sein des grandes exploitations agricoles qui sont assez intensives et qui font beaucoup d'exportations de primeurs vers la France. Et donc dans ces exploitations, il y a beaucoup de personnes marocaines, donc de tout le Maroc, qui viennent travailler dans ces exploitations, mais aussi des personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une zone très intéressante pour comprendre qu'est-ce qui motivait les gens à venir travailler dans cette zone.
Et alors, ces gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne pour travailler dans un pays du Maghreb, le Maroc, ils viennent spécialement de quel pays ?
Alors, c'est très varié. Il peut y avoir vraiment le Mali, par exemple. Mm-hmm. Nous, on a rencontré du Mali et du Sénégal, majoritairement. Mais d'accord. Après, c'est nous ce qu'on a rencontré comme personne.
Et les Marocains, alors, qui se déplacent pour aller travailler dans ces grandes exploitations du Sousse, sont des Marocains qui viennent des villes, qui viennent de régions agricoles du Nord, qui viennent...
Alors, plutôt de régions rurales.
De régions rurales.
Oui, et notamment, il y a beaucoup de migrations féminines, de femmes qui viennent soit la journée, soit vraiment pour plusieurs mois où elles s'installent pour travailler dans ces grandes fermes. Puisque du coup, la particularité de cet emploi, c'est un emploi qui peut être quotidien, donc le contrat est renouvelé chaque jour, ou pour des quinzaines, ou de manière mensuelle. Et l'emploi ne demande pas forcément de qualification particulière, donc ce qui permet à des femmes qui n'ont pas forcément été à l'école de se faire employer.
Bon, et ces femmes font quel type de travail ? C'est le travail agricole banal d'entretien des cultures
Alors ça peut être de la plantation, mais aussi beaucoup de récoltes. Et nous, on a rencontré une femme qui faisait aussi beaucoup de l'emballage.
Avec quelle production là ? Ce sont des agrumes, c'est quoi ?
Alors nous, là, on était, c'était plutôt des primeurs. Ça pouvait être de la framboise, des poivrons. Mais il y a une zone dans le Sousse-Massa où on n'a pas été, où il y a beaucoup d'agrumes, en effet.
D'accord. Et est-ce que, par exemple, là, vous avez rencontré... des migrants, enfin des gens qui avaient fait une migration en France et qui étaient rentrés. Je poserai la même question à Lucie parce que c'est une chose importante.
Alors des gens qui étaient en France et qui sont rentrés, non, mais des gens qui ont tenté de la migration et qui n'ont pas forcément réussi. Ça, d'ailleurs des jeunes, des jeunes qui ont 18-20 ans ou des personnes qui sont plus âgées, donc des profils vraiment très très variés.
Et l'office français dont vous parliez, là, que vous avez contacté au départ, qui établit, si j'ai bien compris, des contrats, il est en relation avec l'OFI en France ou...
Oui, mais c'est le même office, en fait. C'est le même office qui a un bureau à Casablanca.
Il a une antenne à Casablanca, voilà. D'accord. Et ça fonctionne bien, cette relation contractuelle. Est-ce que, par exemple, dans les contrats qui sont établis pour ces Marocains qui viennent en France temporairement, est-ce qu'ils sont invités à revenir dans leur pays ou est-ce qu'ils sont dans un processus de demande d'asile ?
Alors, c'est des contrats donc de 4 à 6 mois qui peuvent être renouvelés tous les ans. Et donc, globalement, ça permet vraiment d'administrer... les personnes du Maroc vers la France avec des dates très précises, pour des tâches très précises. Donc l'OFI a vraiment connaît vraiment tout le parcours de la personne, dans quelle exploitation elle va aller, pour quelle tâche, pour quelle durée.
Et dans ce type de contrat, oui, on sait réellement le point de chute. Hein, la personne vient pour travailler dans telle entreprise, à tel endroit, pour une durée donnée.
Oui, et la particularité, c'est que la personne, une fois qu'elle a fini son contrat en France, doit revenir signer à Casablanca pour montrer qu'elle est bien retournée au Maroc.
D'accord. Oui, c'est donc une administration, en fait, de contrat temporaire. Je me tourne à nouveau vers Lucie pour savoir en Côte d'Ivoire s'il y a des procédures un peu de même nature d'une part, parce que ça me paraît très intéressant si ça peut exister, et d'autre part si vous avez pu rencontrer des gens qui étaient revenus de migration dans leur pays.
Alors par rapport à un fonctionnement de type OFI, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, donc il n'y a pas de migration temporaire de ce type. Et je rajouterais par rapport au Maroc et à ce qu'on a vu en France également, parce que du coup en France on a travaillé dans des exploitations où il y avait énormément de personnes en contrat OFI, et que l'OFI du coup administre ce type de contrat, mais c'est aussi très compliqué parce que par exemple on a rencontré des personnes qui souhaitent rester et s'installer en France durablement pour construire une vie de famille, une situation économique, et qui ne peuvent pas et qui sont obligés de repartir au Maroc. Et c'est très compliqué pour elles d'avoir accès à des CDI ou à des CDD de plus longue durée.
D'accord, la logique de ces contrats, c'est quand même toujours un retour au pays d'origine.
C'est ça.
Voilà. Mmh. Et certains souhaiteraient, ayant connu la France, effectivement, est-ce qu'ils ont la possibilité, à la fin du contrat, de poser une demande d'asile, par exemple ?
Alors, une demande d'asile, non, parce que la demande d'asile, c'est spécifique pour des situations où les personnes viennent de pays dans lesquels ils sont en danger. Donc, des pays de guerre, souvent, ou des pays où la situation politique fait qu'ils ne peuvent pas rester.
Oui, les critères de la Convention de Genève.
C'est
là,
ça. Hein. Voilà. Donc, les personnes qui viennent du Maroc ne sont pas dans cette situation. Donc, ce qu'ils peuvent demander, c'est une carte de séjour de plus longue durée. Voilà. Mais à laquelle ils ont très peu accès. Et pour avoir accès à cette carte de séjour, ils doivent demander un contrat à leur employeur. Et souvent, les employeurs n'acceptent pas parce qu'ils ont besoin de personnes que pour 6 mois, de manière saisonnière.
D'accord. Donc, on va, si vous voulez bien, on va faire une deuxième pause musicale que vous allez présenter. Puis après, on reviendra peut-être plus spécialement au thème du film et puis à la séance de demain. Donc, deuxième pause musicale, de quoi s'agit-il ?
Cette fois-ci, je vais la présenter. La deuxième pause musicale, c'est une musique qui a été écrite par Nizar Fasfat, qui est un ami à nous qui est d'origine marocaine. Et dont ces thématiques le touchent beaucoup. Et la bande-son, c'est une bande-son de Gabriele Galli qu'on a entendu précédemment.
Place à la musique.
Ils m'ont vendu l'Eldorado. J'ai traversé la mer sur un radeau. Je suis arrivé avec un sac à dos. Sur la rive, il n'y avait pas de cadeau. Il n'y avait que les keufs qui m'attendaient au bord. Il n'y avait pas mon ref, une vagatrice encore. Le diable prend mon âme. Le passeur prend mon argent. Bien sûr que je perds mon calme, monsieur l'agent. Vous nous entassez ici comme du bétail. Pas de considération, pas de détails. Je me demande encore si on est des humains. Visage froid polaire, comportement inhumain. Dans vos yeux, je cherche une lueur pour me rassurer. Les arbres ont plus d'empathie, je peux te l'assurer. Contrairement à vos agents qui du bateau nous font sauter, sur un tronc d'arbre au moins, je peux flotter. Apparemment, je ne suis pas le bienvenu. Il me regarde dans les yeux et me dit « Pourquoi t'es venu ?» Comment lui expliquer que je n'ai pas eu le choix, que je veux survivre, que c'est mon droit. Que personne ne met ses enfants sur un bateau, à moins que l'immensité de la mer soit plus sûre que la terre ferme. Je ne suis pas venu voler le gâteau. Je demande un peu d'humanité avant que la porte ne se ferme. Je vais pas sortir tous les refrains sur le vol de l'Afrique. Tu sais comme moi, quelle est la vérité ? Par contre, j'ai bien envie d'en parler de l'Afrique. Ça peut faire mal, je vais dire, mes quatre vérités. J'en veux à tous ces dirigeants corrompus. On aurait pu redresser le continent, se soutenir. De toute façon, avec les si, bien sûr qu'on aurait pu. Avec les si, on aurait pu reconstruire. Ce n'est pas fait, mais ce n'est pas mort. Heureusement que le peuple s'accroche. Dans les plantations de café, sueur sur le corps, mais un sourire impossible à décrocher de ceux qui se battent pour la vie tous les jours, qui se battent pour leur famille tous les jours, des mères de famille qui portent le tamis, qui portent leur famille, qui portent le pays. À vous mes héroïnes, je veux dire merci.
Voilà, nous sommes toujours avec deux étudiantes agronomes de Montpellier, Lucie Aubou et Gabriel Bichat, qui font partie des quatre réalisatrices d'un film Partir à l'aventure, qui évoque la problématique des parcours migratoires en liaison avec l'agriculture. Donc, vous nous avez expliqué un peu comment vous êtes organisé dans le cadre d'Ingénieurs sans frontières pour réaliser ce documentaire à base d'interviews et de films, d'images qui ont été faites en Côte d'Ivoire et au Maroc. On n'a pas beaucoup parlé de la France, peut-être vous pouvez en dire un petit mot et puis nous redire, on n'a plus beaucoup de temps, mais pourquoi vous vous êtes intéressé à ce thème particulier ? Gabriel ? Gabriel, s'il vous plaît.
Donc sur la France, on a fait des terrains qui sont très très différents. On a fait des chantiers d'insertion pour savoir comment l'agriculture pouvait permettre l'intégration pour certaines personnes. Donc là, c'était plus l'intégration pour des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. Et après, on a fait un grand terrain de un mois dans les Bouches-du-Rhône où on s'est intéressé donc aux contrats OFI, donc aux personnes qui sont venues du Maroc et qui viennent travailler donc en France, quels étaient leur avis sur ces contrats, combien de temps elles restaient, comment ça se passait. Et en opposition à ces contrats, on s'est aussi intéressé finalement aux personnes qui travaillent de manière sans papier dans l'agriculture, quelles sont les conditions de travail. Voilà, deux terrains vraiment très différents qui font partie du terrain en France.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a permis de réfléchir à la problématique générale de la migration à partir de ce que vous avez vu de développement agricole dans ces pays-là ? Est-ce que les gens partent parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'ils en vivent mal, parce que leur famille les pousse à s'exiler ?
Moi, je vais essayer de parler un peu de la Côte d'Ivoire, de ce qu'on a vu là-bas. Donc en Côte d'Ivoire, c'est assez particulier parce que c'est une migration qui est plutôt... cette migration vers le Maghreb et vers l'Europe date d'à peu près une vingtaine d'années. Où il y a beaucoup de jeunes qui partent, de jeunes seuls, mais aussi de plus en plus de familles, et également de plus en plus de femmes. Et donc nous, on s'est intéressé plutôt aux jeunes hommes, parce que ça a été plus facile pour nous d'aller vers ces personnes-là. Et donc à ces jeunes hommes qui travaillent dans l'agriculture dans leur pays, ou dans des familles qui sont dans une situation agricole. Et on s'est plutôt intéressé aux cultures d'exportation, donc comme le cacao ou encore la noix de cajou et ou le caoutchouc, hein, l'EVA. Et donc, par exemple, par rapport au cacao, donc nous, ce qu'on a vu, c'est que on a des agriculteurs qui ont quand même plusieurs hectares de cacao, mais de cacao qui sont en monoculture aujourd'hui, parce qu'il y a eu un développement après l'indépendance de cette cacao culture. Et aujourd'hui, une cacao culture qui est touchée d'une part par des maladies qui sont liées au climat, mais aussi à la manière de gérer les champs, et aussi des difficultés liées à la non-transformation de ce cacao-là en Côte d'Ivoire. Donc, je m'explique, la majorité du cacao en Côte d'Ivoire est transformée par des multinationales étrangères, et donc les producteurs eux-mêmes touchent très peu de rémunération sur ce cacao.
On reviendra certainement à ce débat demain à l'occasion de la projection du film, évidemment, c'est fondamental. Une dernière question simplement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez le sentiment, pour avoir travaillé dans la zone des cultures industrielles, cacao, palmier à huile et autres, et d'autre part dans la zone de savane où il y a plus de cultures vivrières, éventuellement du coton et autres. Est-ce que vous avez le sentiment que les départs en migration viennent plus de la zone de savane ou de la zone tropique humide de Côte d'Ivoire ?
Alors, je pense que ce n'est pas forcément lié au type de climat, au type d'endroit. Nous, on avait pas mal réfléchi à ça, notamment par rapport à l'ethnie des personnes et à comment le mouvement est vécu et est vu dans ces ethnies-là. Je pense qu'on n'a pas encore assez creusé pour que je puisse répondre à cette question. Mais dans tous les cas, on a vu ce type de migration au nord, mais aussi au sud.
Donc vous avez le sentiment qu'il y a des sociétés ou des ethnies qui portent plus à ce départ que d'autres peut-être. Mais ça, c'était certainement à approfondir. On n'a plus beaucoup de temps, je reviens vers vous, Gabriel, peut-être pour dire un mot de ce qui pourrait être possible de faire pour des gens motivés vis-à-vis d'ISF, soit en termes de bénévolat, de moyens ou autres.
Il y a toujours beaucoup de choses à faire quand on a la motivation. Nous, ce qu'on pourrait parler, c'est de faire du bénévolat, par exemple, avec des associations qui travaillent à l'accueil et à l'insertion des personnes en France. Ça peut être, par exemple, avec Singa, faire des permanences pour apprendre le français ou se former, par exemple, à la question administrative et permettre le suivi et le conseil pour tout ce qui est accès aux papiers. Ou ça peut être, par exemple, avec l'association Singa, qui font des binômes entre une personne qui vient d'arriver et des personnes qui habitent les villes. Et comme ça, ça fait des échanges culturels très intéressants, très riches. Par exemple, pour visiter la ville, aller faire des musées, boire un café. Et ça, c'est très intéressant. Et la CIMAD pour les cours de français. Et après, par rapport à la sensibilisation, il est possible aussi de faire des projections débats avec donc le film qu'on a réalisé Partir à l'aventure. Et ça, il suffit de nous contacter, soit via les réseaux que vous retrouverez, j'imagine, sur le site des Échos de la Solidarité.
Tout à fait.
Donc je pense que ce qui est important, c'est de montrer les types de migrations qui existent au domaine agricole et de sensibiliser à propos de ça pour montrer que c'est présent. Nous, c'est vraiment ce qu'on a découvert cette année, que c'est une thématique qui n'apparaît pas forcément dans le domaine médiatique.
Oui. Je vous remercie. Je pense que ça peut intéresser effectivement nos auditeurs et auditrices de savoir qu'à la suite de cette problématique que vous avez passée dans ce film lié à la migration, lié aux difficultés agricoles dans le sud, de voir qu'au nord, il y a tout un travail d'accompagnement de ces migrants. Moi-même, participant à GRS Welcome, je suis tout à fait concerné par ces questions de demande d'asile et de migration qui vont malheureusement ne faire que s'accentuer, on peut le craindre. Voilà, merci beaucoup Lucie Gabriel pour cet entretien. On retrouvera certaines des réalisatrices demain à l'occasion de la projection de ce film, je le rappelle, demain à partir de midi à l'espace Martin Luther King, boulevard Louis Blanc. projection organisée par la Maison des Tiers-Mondes et le Centre de Documentation Tiers-Mondes. Après le film qui dure une petite heure, on aura un débat sur ces questions qui ne manquera pas d'intéresser beaucoup de monde, je pense. Et ce sera peut-être l'occasion aussi de s'engager dans du bénévolat pour ceux qui souhaiteraient participer à ces actions extrêmement utiles d'accueil, de formation, d'animation que Gabriel nous a rappelé. Merci beaucoup aux techniciens remarquables de cette sympathique radio FM+. Et merci à nouveau à Lucie et Gabriel.
Merci.
Et à demain, je l'espère, autour de ce film.